falloir pas mal d'années avant de pouvoir m'imaginer que je peux poser des questions sur est-ce que j'ai parlé dans le vide, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il y a un moyen sérieux qui satisfasse la tête de mule que je suis, mais qui me permette quand même de m'ouvrir à ces expériences-là. Alors je vais commencer petit à petit, je vais commencer en travaillant sur ce dont je parlais au tout début de cette conférence, les NDE, qui, comme ça, dans les quelques livres et les quelques informations que j'ai pu recueillir, me semblent être une porte d'entrée intéressante. Alors certes, les gens qui ont vécu ces expériences ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Donc ils ne sont pas morts. Mais ils ont quand même vécu un certain nombre de choses qui, à les écouter, ressemblent à une expérience de proximité de la mort. Ils sont allés. Alors est-ce qu'ils sont allés au début? Est-ce que ça se passe comme ça au début? Est-ce que ça se passe comme ça ensuite? Personne n'a la réponse, on ne sait pas. Mais en revanche, il y a quelques caractéristiques tout à fait établies, scientifiquement parlant, qui sont intéressantes dans ces expériences-là, qui, moi, me donnent une porte d'entrée, une accroche, une corde à tirer. Le fait que, même si on en est au balbutiement du travail sur la conscience et des rapports entre conscience et cerveau, on sait, a priori, que quand un cerveau est intoxiqué par une substance, a fortiori une substance que l'on sécrète nous-mêmes, de l'adrénaline ou autre chose, ou quand un cerveau est en arrêt, quand il n'y a plus de circulation sanguine, quand il n'y a plus d'activité électrique décelable, a priori on subodore qu'il ne peut plus y avoir de perception, il ne peut plus y avoir de stockage de souvenirs, et il n'y a plus rien, il y a du blanc. Or, à lire les récits des gens ayant vécu des NDE, bah, c'est exactement l'opposé que le blanc et le rien. C'est beaucoup de choses. Et puis en discutant avec des psychologues, avec des gens comme Patrice Monarcel ou tous les autres qui ont travaillé sur ces sujets-là, donc journalistes ou chercheurs, on s'aperçoit que ouais, je pose des questions, et tout ce cheminement, en fait, vous pourrez le découvrir dans le livre, je pose des questions. Alors, est-ce que ça peut être une hallucination, une intoxication, voilà, une intoxication par un trop-plein de médicaments, par l'intervention des médecins urgentistes qui se fait sur la personne en train d'avoir cet arrêt cardiaque. Et là, on me dit, oui, ça pourrait être ça. Mais c'est quand même curieux que les gens reviennent avec un récit extrêmement précis, extrêmement détaillé, riche de détails, riche d'éléments observés. Alors que justement, dans une hallucination ou une espèce de confusion, les esprits sont troublés, confus, mélangent les choses, les dates. Ça va être des bribes de petits souvenirs qu'on va ramener d'un évanouissement, par exemple. Là, on est devant quelque chose qui est linéaire, qui est très construit, qui est très précis. Et beaucoup de gens me disent, ça colle pas. Ça colle pas avec une hallucination, ça colle pas avec une simple giclée de produits chimiques dans le cerveau. Parce que sinon, on devrait observer voilà, un récit confus, une difficulté de la personne à se remémorer les différentes étapes de l'événement. Or, là, on a des gens qui, très consciemment, reprennent conscience à l'extérieur de leur corps, enfin, disent percevoir la scène de l'extérieur, dans les nombreux cas d'expérience de mort imminente où il y a cette phase de sortie hors du corps. Et là, leur perception, à écouter les témoins, est très nette, très précise. Leur mot, c'est même plus réel que réel, plus réel que ce à quoi j'avais été habitué dans mon corps. J'ai l'impression pour la première fois de voir, alors que dans mon corps, j'ai l'impression d'être beaucoup plus réduit. Et ce n'est pas juste une personne qui dit ça. C'est, comme le montre par exemple Jean-Pierre Jourdan, qui est un médecin, et un des piliers de l'association Yands en France, qui a publié un livre merveilleux qui s'appelle Deadline, qui est un énorme pavé, un recueil de témoignages. Il montre bien ça dans son livre, il présente de façon extrêmement approfondie à peu près 70 cas de personnes qu'il a interrogées longuement, qu'il a questionnées dans toute la subtilité de leurs expériences. Et c'est justement en allant profondément dans cette expérience-là qu'on s'aperçoit que ça ne peut pas être une hallucination, ça ne peut pas être un coup sur la tête et puis une reconstruction. C'est quelque chose de cohérent, c'est quelque chose de solide. Donc voilà, là moi je me trouve avec, je me dis tiens, imaginons que Thomas, il n'ait pas eu le choc qu'il a eu, il soit juste blessé et qu'on l'ait ramené, qu'on l'ait ramené au bout de 30 secondes, 40 secondes. Est-ce qu'il m'aurait raconté ça? Quand je regarde au-dessus de son corps, est-ce qu'il est là, en train de me voir? Parce que tous les gens qui ont vécu des NDE racontent ça. Bon, alors la question c'est, après la NDE, après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, comme me le disent aussi certains neurologues ou d'autres, on ne détecte rien dans le cerveau. Effectivement, on est dans des cas d'arrêt cardiaque, mais après tout, le cerveau n'est pas endommagé, puisqu'on peut récupérer les personnes. Des organes comme le foie, le cœur peuvent continuer à être opérationnels plusieurs heures, même après le décès physique. Et là, je m'aperçois qu'en fait, la mort, ben, elle n'existe pas. Elle n'est pas définie. Personne ne peut vous dire ce que c'est la mort. Et quand je plonge dans les textes, parce qu'il faut quand même bien décider dans les hôpitaux, c'est une question tout à fait pratique, est-ce que quelqu'un est mort, oui ou non, on s'aperçoit que la mort, c'est une décision juridique. Vous êtes mort si vous n'avez plus de battements cardiaques, d'activité cérébrale décelée à deux reprises avec 4 heures d'intervalle. Mais plein d'organes de votre corps continuent à vivre. Votre cerveau, si par exemple vous êtes tombé dans l'eau froide et que vous êtes noyé, mais que l'eau est à 5 degrés, votre cerveau, il peut durer des heures comme ça. Vous pouvez être récupéré des heures parce qu'il n'y aura aucune dégradation du tissu cérébral. Pour peu qu'aucun des tissus ait été affecté dans votre corps, on va vous récupérer, vous ramener. Donc quand est-ce qu'on est mort ? Est-ce qu'on est mort quand il n'y a plus du tout le cerveau, quand le cerveau c'est devenu juste de la bouillie, du liquide ? Ben non, on peut maintenir des gens en vie, et le débat est ouvert chez nous notamment, de personnes qui sont considérées comme des légumes, qui sont considérées comme n'ayant plus aucun réflexe à tous les stimuli qu'on peut leur donner, mais ils ont un corps tout à fait fonctionnel. Donc on a juste mis une machine pour pallier les déficiences fonctionnelles qui ne peuvent plus être commandées par le cerveau. Mais le corps physique continue de vivre. Alors, est-ce qu'ils sont vivants ou pas ? Il n'y a pas la réponse, là. Si on est dans une société comme la nôtre qui dit que tout est mécanique, que les corps sont des belles mécaniques et qu'il n'y a rien d'autre, bon, bah effectivement, le débat sur la personne, est-ce qu'on la débranche ou pas, alors que ça fait 2 ans qu'elle est liquide et que son cerveau n'est plus fonctionnel, effectivement, autant débrancher, vu que c'est une machine et qu'il n'y a plus rien. Sauf que tout le monde sait, intuitivement, qu'il y a autre chose en sang, qu'il y a quelque chose d'autre. Donc voilà, moi je me retrouve avec cette question, est-ce que c'est simplement nos outils de détection qui ne sont pas suffisamment précis ? Est-ce que les NDE sont vraiment le début de la mort ?